Chapitre 11. Voyageurs en détresse. En effet, pendant cette courte accalmie, des cris se faisaient entendre vers la partie supérieure de la route et à une distance assez rapprochée de l'anfractuosité qui abritait le Tarantas. C'était comme un appel désespéré, évidemment jeté par quelques voyageurs en détresse. Michel Strogoff, prêtant l'oreille, écoutait. Liemschik écoutait aussi, mais en secouant la tête, comme s'il lui eût semblé impossible de répondre à cet appel. « Des voyageurs qui demandent du secours !» s'écria Nadia. « S'ils ne comptent que sur nous !» répondit Liemschik. « Pourquoi non ?» s'écria Michel Strogoff. « Ce qu'ils feraient pour nous en pareille circonstance, ne devons-nous pas le faire pour eux ?»« Mais vous n'allez pas exposer la voiture et les chevaux !»«
J'irai à pied !» répondit Michel Strogoff en interrompant Liemschik.
« Je t'accompagne, frère, » dit la jeune Livonienne.
« Non, reste, Nadia. Liemschik demeurera près de toi, je ne veux pas te laisser seule. »«
Je resterai, » répondit Nadia.
« Quoi qu'il arrive, ne quitte pas cet abri.
Tu me retrouveras là où je suis. »
Michel Strogoff serra la main de sa compagne, et franchissant le tournant du talus, il disparut aussitôt dans l'ombre.
« Ton frère a tort, » dit Liemschik à la jeune fille.
« Il a raison, » répondit simplement Nadia.
Cependant, Michel Strogoff remontait rapidement la route. S'il avait grande hâte de porter secours à ceux qui jetaient ces cris de détresse, il avait grand désir aussi de savoir quels pouvaient être ces voyageurs que l'orage n'avait pas empêchés de s'aventurer dans la montagne, car il ne doutait pas que ce ne fût ceux dont la télègue précédait toujours son Tarantas. La pluie avait cessé. Mais la bourrasque redoublait de violence. Les cris, apportés par le courant atmosphérique, devenaient de plus en plus distincts. De l'endroit où Michel Strogoff avait laissé Nadia, on ne pouvait rien voir. La route était sinueuse, et la lueur des éclairs ne laissait apparaître que le saillant des talus qui coupaient le lacet du chemin. Les rafales, brusquement brisées à tous ses angles, formaient des remous difficiles à franchir, et il fallait à Michel Strogoff une force peu commune pour leur résister. Mais il fut bientôt évident que les voyageurs, dont les cris se faisaient entendre, ne devaient plus être éloignés. Bien que Michel Strogoff ne pût encore les voir, soit qu'ils eussent été rejetés hors de la route, soit que l'obscurité les dérobât à ses regards, leurs paroles, cependant, arrivaient assez distinctement à son oreille. Or, voici ce qu'il entendit, ce qui ne laissa pas de lui causer une certaine surprise.
« Butor ! Reviendras-tu ?
Je te ferai knouter au prochain relais.
Entends-tu, postillon du diable ? Hé, hey, là-bas !
Voilà comme ils vous conduisent dans ce pays.
Et ce qu'ils appellent une télègue.
Hé, hey, triple brute, il détale toujours et ne paraît pas s'apercevoir qu'il nous laisse en route.
Me traiter ainsi, moi, un Anglais accrédité, je me plaindrai à la chancellerie et je le ferai pendre.
Celui qui parlait ainsi était véritablement dans une grosse colère, mais tout à coup il sembla à Michel Strogoff que le second interlocuteur prenait son parti de ce qui se passait, car l'éclat de rire le plus inattendu, au milieu d'une telle scène, retentit soudain et fut suivi de ces paroles.
« Eh bien non, décidément, c'est trop drôle !»«
Vous osez rire !»
répondit d'un ton passablement aigre le citoyen du Royaume-Uni.
« Certes oui, cher confrère,
et de bon cœur,
et c'est ce que j'ai de mieux à faire.
Je vous engage à en faire autant. Parole d'honneur, c'est trop drôle, ça ne s'est jamais vu. »
En ce moment, un violent coup de tonnerre remplit le défilé d'un fracas effroyable que les échos de la montagne multiplièrent dans une proportion grandiose. Puis, après que le dernier roulement se fut éteint, la voix joyeuse retentit encore, disant
« Oui, extraordinairement drôle.
Voilà certainement qui n'arriverait pas en France. »
« Ni en Angleterre, » répondit l'Anglais.
Sur la route, largement éclairée par les éclairs, Michel Strogoff aperçut à 20 pas deux voyageurs, juchés l'un près de l'autre sur le banc de derrière d'un singulier véhicule qui paraissait être profondément embourbé dans quelque ornière. Michel Strogoff s'approcha des deux voyageurs, dont l'un continuait de rire et l'autre de maugréer, et il reconnut les deux correspondants de journaux qui, embarqués sur le Caucase, avait fait en sa compagnie la route de Nijni Novgorod à Perm.
Eh, bonjour, monsieur, s'écria le Français. Enchanté de vous voir dans cette circonstance. Permettez-moi de vous présenter mon ennemi intime, monsieur Blount.
Le reporter anglais salua, et peut-être allait-il à son tour présenter son confrère Alcide Jolivet conformément aux règles de la politesse quand Michel Strogoff lui dit.
Inutile, messieurs. Nous nous connaissons, puisque nous avons déjà voyagé ensemble sur la Volga.
Ah, très bien. Parfait. Monsieur ?
Nicolas Korpanov, négociant d'Irkoutsk, répondit Michel Strogoff.
Mais m'apprendrez-vous quelle aventure, si lamentable pour l'un, si plaisante pour l'autre, vous est arrivée ?
Je vous fais juge, monsieur Korpanov, répondit Alcide Jolivet.
Imaginez-vous que notre postillon est parti avec l'avant-train de son infernal véhicule, nous laissant en panne sur l'arrière-train de son absurde équipage. La pire moitié d'une télègue pour deux, plus de guides, plus de chevaux. N'est-ce pas absolument et superlativement drôle ?
Pas drôle du tout, répondit l'anglais.
Mais si, confrère, vous ne savez vraiment pas prendre les choses par leur bon côté.
Et comment, s'il vous plaît, pourrons-nous continuer notre route ? Demanda Harry Blount.
Rien n'est plus simple, répondit Alcide Jolivet. Vous allez vous atteler à ce qu'il nous reste de voiture. Moi, je prendrai les guides. Je vous appellerai mon petit pigeon comme un véritable yamchik et vous marcherez comme un vrai postier.
Monsieur Jolivet, répondit l'anglais, cette plaisanterie passe les bornes et...
Soyez calme, confrère. Quand vous serez fourbu, je vous remplacerai et vous aurez le droit de me traiter d'escargot poussif ou de tortue qui se pâme si je ne vous mène pas un train d'enfer.
Alcide Jolivet disait toutes ces choses avec une telle bonne humeur que Michel Strogoff ne put s'empêcher de sourire.
Messieurs, dit-il alors, il y a mieux à faire. Nous sommes arrivés ici au col supérieur de la chaîne de l'Oural et par conséquent, nous n'avons plus maintenant qu'à descendre les pentes de la montagne. Ma voiture est là, à 500 pas en arrière. Je vous prêterai un de mes chevaux. On l'attellera à la caisse de votre télègue et demain, si aucun accident ne se produit, nous arriverons ensemble à Ekaterinbourg.
Monsieur Korpanov, répondit Alcide Jolivet, voici une proposition qui part d'un cœur généreux.
J'ajoute, monsieur, répondit Michel Strogoff, que si je ne vous offre pas de monter dans mon tarantas, c'est qu'il ne contient que deux places, et que ma sœur et moi nous les occupons déjà.
Comment donc, monsieur, répondit Alcide Jolivet. Mais mon confrère et moi, avec votre cheval et l'arrière-train de notre demi-télègue, nous irions au bout du monde.
Monsieur, reprit Harry Blount, nous acceptons votre offre obligeante.
Quant à septième chic.
Oh! Croyez bien que ce n'est pas la première fois que pareille aventure lui arrive, répondit Michel Strogoff.
Mais alors, pourquoi ne revient-il pas? Il sait parfaitement qu'il nous a laissés en arrière, le misérable.
Lui, il ne s'en doute même pas.
Quoi? Ce brave homme ignore qu'une scission s'est opérée entre les deux parties de sa télègue?
Il l'ignore, et c'est de la meilleure foi du monde qu'il conduit son avant-train à Ekaterinbourg.
Quand je vous disais que c'était tout ce qu'il y a de plus plaisant, confrère, s'écria Alcide Jolivet.
Si donc, messieurs, vous voulez me suivre, reprit Michel Strogoff, nous rejoindrons ma voiture et...
Mais la télègue, fit observer l'anglais.
Ne craignez pas qu'elle s'envole, mon cher Blount, s'écria Alcide Jolivet. La voilà si bien enracinée dans le sol que si on l'y laissait au printemps prochain, il y pousserait des feuilles.
Venez donc, messieurs, dit Michel Strogoff, et nous ramènerons ici le tarantas.
Le Français et l'Anglais, descendant de la banquette de fond, devenu ainsi siège de devant, suivirent Michel Strogoff.
Tout en marchant, Alcide Jolivet, suivant son habitude, causait avec sa bonne humeur que rien ne pouvait altérer.
« Ma foi, monsieur Korpanov, dit-il à Michel Strogoff, vous nous tirez là d'un fier embarras. »«
Je n'ai fait, monsieur, répondit Michel Strogoff, que ce que tout autre eût fait à ma place. Si les voyageurs ne s'entraidaient pas, il n'y aurait plus qu'à barrer les routes.
À charge de revanche, monsieur, si vous allez loin dans les steppes, il est possible que nous nous rencontrions encore et... »
Alcide Jolivet ne demandait pas d'une façon formelle à Michel Strogoff où il allait, mais celui-ci, ne voulant pas avoir l'air de dissimuler, répondit aussitôt.
« Je vais à Omsk, messieurs. »
« Et monsieur Blount et moi, reprit Alcide Jolivet, nous allons un peu devant nous,
là où il y aura peut-être quelques balles, mais à coup sûr, quelques nouvelles à attraper.
« Dans les provinces envahies ?» demanda Michel Strogoff avec un certain empressement.
« Précisément, monsieur Korpanov. Et il est probable que nous ne nous y rencontrerons pas. »
« En effet, monsieur, répondit Michel Strogoff, je suis peu friand de coups de fusil ou de coups de lance, et trop pacifique de mon naturel pour m'aventurer là où l'on se bat.
Désolé, monsieur, désolé, et véritablement, nous ne pourrons que regretter de nous séparer si tôt. Mais en quittant Ekaterinbourg, peut-être notre bonne étoile voudra-t-elle que nous voyageons encore ensemble, ne fût-ce que pendant quelques jours.
« Vous vous dirigez sur Omsk ? » demanda Michel Strogoff après avoir réfléchi un instant.
« Nous n'en savons rien encore, » répondit Alcide Jolivet. « Mais très certainement, nous irons directement jusqu'à Ishim, et une fois là, nous agirons selon les événements. »«
Eh bien, messieurs, » dit Michel Strogoff, « nous irons de conserve jusqu'à Ishim. »
Michel Strogoff eût évidemment mieux aimé voyager seul. Mais il ne pouvait, sans que cela parût au moins singulier, chercher à se séparer de deux voyageurs qui allaient suivre la même route que lui. D'ailleurs, puisqu'Alcide Jolivet et son compagnon avaient l'intention de s'arrêter à Ishim, sans immédiatement continuer sur Omsk, il n'y avait aucun inconvénient à faire avec eux cette partie du voyage.
« Eh bien, messieurs, répondit-il, voilà qui est convenu, nous ferons route ensemble. »
Puis, du ton le plus indifférent,
« Savez-vous avec quelque certitude où en est l'invasion tartare ? » demanda-t-il.
« Ma foi, monsieur, nous n'en savons que ce qu'on en disait à Perm, » répondit Alcide Jolivet. « Les Tartares de Féofarkhan ont envahi toute la province de Semipalatinsk et depuis quelques jours, ils descendent à marche forcée le cours de l'Irtych. Il faut donc vous hâter si vous voulez les devancer à Omsk. »
« En effet, » répondit Michel Strogoff.
On ajoutait aussi que le colonel Ogareff avait réussi à passer la frontière sous un déguisement, et qu'il ne pouvait tarder à rejoindre le chef tartare au centre même du pays soulevé.
Mais comment l'aurait-on su ? Demanda Michel Strogoff que ces nouvelles, plus ou moins véridiques, intéressaient directement.
Eh ! Comme on sait toutes ces choses, répondit Alcide Jolivet. C'est dans l'air.
Et vous avez des raisons sérieuses de penser que le colonel Ogareff est en Sibérie ?
J'ai même entendu dire qu'il avait dû prendre la route de Kazan à Ekaterinbourg.
« Ah ! Vous saviez cela, monsieur Jolivet, » dit alors Harry Blount, que l'observation du correspondant français tira de son mutisme.
« Je le savais, » répondit Alcide Jolivet.
« Et saviez-vous qu'il devait être déguisé en bohémien ?» demanda Harry Blount.
« En bohémien ?» s'écria presque involontairement Michel Strogoff, qui se rappela la présence du vieux tzigane à Nijni Novgorod, son voyage à bord du Caucase et son débarquement à Kazan.
« Je le savais assez pour en faire l'objet d'une lettre à ma cousine, » répondit en souriant Alcide Jolivet.
« Vous n'avez pas perdu votre temps à Kazan, » fit observer l'anglais d'un ton sec.
« Mais non, cher confrère, et pendant que le Caucase s'approvisionnait, je faisais comme le Caucase. »
Michel Strogoff n'écoutait plus les réparties qu'Harry Blount et Alcide Jolivet échangeaient entre eux. Il songeait à cette troupe de bohémiens, à ce vieux tzigane dont il n'avait pu voir le visage, à la femme étrange qui l'accompagnait, au singulier regard qu'elle avait jeté sur lui, et il cherchait à rassembler dans son esprit tous les détails de cette rencontre, lorsqu'une détonation se fit entendre à une courte distance.
« Ah, messieurs, en avant !» s'écria Michel Strogoff.
« Tiens, pour un digne négociant qui fuit les coups de feu, se dit Alcide Jolivet, ils courent bien vite à l'endroit où ils éclatent. » Et suivi d'Harry Blount, qui n'était pas homme à rester en arrière, il se précipita sur les pas de Michel Strogoff. Quelques instants après, tous trois étaient en face du saillant qui abritait le tarantas au tournant du chemin. Le bouquet de pins allumé par la foudre brûlait encore. La route était déserte. Cependant, Michel Strogoff n'avait pu se tromper, le bruit d'une arme à feu était bien arrivé jusqu'à lui. Soudain, un formidable grognement se fit entendre et une seconde détonation éclata au-delà du talus.
« Un ours !» s'écria Michel Strogoff, qui ne pouvait se méprendre à ce grognement. « Nadia ! Nadia !»
Et tirant son coutelas de sa ceinture, Michel Strogoff s'élança par un bond formidable et tourna le contrefort derrière lequel la jeune fille avait promis de l'attendre. Les pins, alors dévoré par les flammes du tronc à la cime, éclairait largement la scène. Au moment où Michel Strogoff atteignit le Tarantas, une masse énorme recula jusqu'à lui. C'était un ours de grande taille. La tempête l'avait chassé des bois qui hérissaient ce talus de l'Oural, et il était venu chercher refuge dans cette excavation, sa retraite habituelle, sans doute, que Nadia occupait alors. Deux des chevaux, effrayés de la présence de l'énorme animal, brisant leurs traits, avaient pris la fuite, et Liamichik, ne pensant qu'à ses bêtes, oubliant que la jeune fille allait rester seule en présence de l'ours, s'était jetée à leur poursuite. La courageuse Nadia n'avait pas perdu la tête. L'animal, qui ne l'avait pas vu tout d'abord, s'était attaqué à l'autre cheval de l'attelage. Nadia, quittant alors l'infractuosité dans laquelle elle s'était blottie, avait couru à la voiture, pris un des revolvers de Michel Strogoff, et marchant hardiment sur l'ours, elle avait fait feu à bout portant. L'animal, légèrement blessé à l'épaule, s'était retourné contre la jeune fille qui avait cherché d'abord à l'éviter en tournant autour du Tarantas dont le cheval cherchait à briser ses liens. Mais ses chevaux, une fois perdus dans la montagne, c'était tout le voyage compromis. Nadia était donc revenue droite à l'ours, et avec un sang-froid surprenant, au moment même où les pattes de l'animal allaient s'abattre sur sa tête, elle avait fait feu sur lui une seconde fois. C'était cette seconde détonation qui venait d'éclater à quelques pas de Michel Strogoff. Mais il était là. D'un bond, il se jeta entre l'ours et la jeune fille. Son bras ne fit qu'un seul mouvement, de bas en haut, et l'énorme bête, fendue du ventre à la gorge, tomba sur le sol comme une masse inerte. C'était un beau spécimen de ce fameux coup des chasseurs sibériens, qui tiennent à ne pas endommager cette précieuse fourrure des ours dont ils tirent un haut prix. « Tu n'es pas blessée, sœur ?» dit Michel Strogoff en se précipitant vers la jeune fille. « Non, frère, » répondit Nadia. En ce moment, apparurent les deux journalistes. Alcide Jolivet se jeta à la tête du cheval et il faut croire qu'il avait le poignet solide, car il parvint à le contenir. Son compagnon et lui avaient vu la rapide manœuvre de Michel Strogoff. « Diable !» s'écria Alcide Jolivet. « Pour un simple négociant, monsieur Korpanov, vous maniez joliment le couteau du chasseur. »« Très joliment même !» ajouta Harry Blount. « En Sibérie, messieurs, » répondit Michel Strogoff, « nous sommes forcés de faire un peu de tout. » Alcide Jolivet regarda alors le jeune homme. Vu en pleine lumière, le couteau sanglant à la main, avec sa haute taille, son air résolu, le pied posé sur le corps de l'ours qu'il venait d'abattre, Michel Strogoff était beau à voir. Un rude gaillard, se dit Alcide Jolivet. S'avançant alors respectueusement, son chapeau à la main, il vint saluer la jeune fille. Nadia s'inclina légèrement. Alcide Jolivet, se tournant alors vers son compagnon, la sœur vaut le frère, dit-il. Si j'étais ours, je ne me frotterais pas à ce couple redoutable et charmant. Harry Blount, droit comme un piquet, se tenait chapeau bas à quelque distance. La désinvolture de son compagnon avait pour effet d'ajouter encore à sa raideur habituelle. En ce moment reparut Liamchik qui était parvenu à rattraper ses deux chevaux. Il jeta tout d'abord un œil de regret sur le magnifique animal gisant sur le sol qu'il allait être obligé d'abandonner aux oiseaux de proie et il s'occupa de réinstaller son attelage. Michel Strogoff lui fit alors connaître la situation des deux voyageurs et son projet de mettre un des chevaux du Tarantas à leur disposition. « Comme il te plaira, » répondit Liamchik. « Seulement deux voitures au lieu d'une. »« Bon, l'ami, » répondit Alcide Jolivet, qui comprit l'insinuation. « On te paiera double. »« Va donc, mes tourtereaux !» cria Liamchik. Nadia était remontée dans le Tarantas que suivaient à pied Michel Strogoff et ses deux compagnons. Il était 3 heures. La bourrasque, alors dans sa période décroissante, ne se déchaînait plus aussi violemment à travers le défilé et la route fut remontée rapidement. Aux premières lueurs de l'aube, le Tarantas avait rejoint la télègue qui était consciencieusement embourbée jusqu'au moyeu de ses roues. On comprenait parfaitement qu'un vigoureux coup de collier de son attelage eût opéré la séparation des deux trains.
Un des chevaux de flanc du Tarantas fut attelé à l'aide de cordes à la caisse de la télègue. Les deux journalistes reprirent place sur le banc de leur singulier équipage et les voitures se mirent aussitôt en mouvement. Du reste, elles n'avaient plus qu'à descendre les pentes de l'Oural, ce qui n'offrait aucune difficulté. 6 heures après, les deux véhicules, l'un suivant l'autre, arrivaient à Ekaterinbourg sans qu'aucun incident fâcheux eût marqué la seconde partie de leur voyage. Le premier individu que les journalistes aperçurent sur la porte de la maison de poste, ce fut leur yemchik qui semblait les attendre. Ce digne russe avait vraiment une bonne figure, et sans plus d'embarras, l'œil souriant, il s'avança vers ses voyageurs et leur tendant la main, il réclama son pourboire. La vérité oblige à dire que la fureur d'Harry Blount éclata avec une violence toute britannique, et si yemchik ne se fut prudemment reculé, un coup de poing, porté suivant toutes les règles de la boxe, lui eût payé son avant-coup en pleine figure. Alcide Jolivet, lui voyant cette colère, riait à se tordre, et comme il n'avait jamais ri peut-être. « Mais il a raison, ce pauvre diable » s'écriait-il. « Il est dans son droit, mon cher confrère. Ce n'est pas sa faute si nous n'avons pas trouvé le moyen de le suivre. » Et tirant quelques copecs de sa poche, « Tiens, l'ami » dit-il en les remettant à yemchik, « en poche. Si tu ne les as pas gagnés, ce n'est pas de ta faute. » Ceci redoubla l'irritation d'Harry Blount, qui voulait s'en prendre au maître de poste et lui faire un procès. « Un procès en Russie !» s'écria Alcide Jolivet. « Mais si les choses n'ont pas changé, confrère, vous n'en verriez pas la fin. Vous ne savez donc pas l'histoire de cette nourrice russe qui réclamait 12 mois d'allaitement à la famille de son nourrisson ?»«
Je ne la sais pas, » répondit Harry Blount.
« Alors, vous ne savez pas non plus ce qu'était devenu ce nourrisson quand fut rendu le jugement qui lui donnait gain de cause. »
« Et qu'était-il, s'il vous plaît ?»«
Colonel des hussards de la garde. » Et sur cette réponse, tous d'éclater de rire. Quant à Alcide Jolivet, enchanté de sa répartie, il tira son carnet de poche et y inscrivit en souriant cette note destinée à figurer au dictionnaire moscovite. Télègue, voiture russe à 4 roues quand elle part et à 2 roues quand elle arrive.